On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, Émilie Théoret nous fait découvrir une auteure bien chez nous. La figure d'Anne Hébert est assez connue, très connue, archi-connue dans la littérature québécoise. Oui. On entend son nom, des écoles, des rues, des parcs portent son nom. Plusieurs de ses œuvres font partie des bibliothèques des Québécois. Il y en a même quelques-unes qui se retrouvent dans le cursus scolaire, oui. Que ce soit au secondaire ou surtout au cégep. Alors, c'est pas quelque chose d'étranger que cette figure-là d'Anne Hébert, pour en parler aujourd'hui avec nous, Émilie Théoret, bonjour.
Bonjour.
T'as lu la toute récente biographie d'Anne Hébert publiée par Marie-Andrée Lamontagne aux éditions Boréal.
Oui, une belle grosse biographie de plus de 500 pages.
Ah ouais.
Très intéressante. Donc oui, j'étais très curieuse. En fait, cette biographie-là était très attendue dans le monde littéraire.
J'imagine.
Pour la situer, Anne Hébert, là, si jamais il y a des gens qui la connaissent pas, parce que je suis certaine si on faisait un vox pop, ça serait un des trois noms qui ressortirait là, vraiment. Là, même ceux qui ne connaissent pas la littérature québécoise, comme tu le disais, Anne Hébert, c'est un grand nom.
Ouais.
Donc, c'est une de nos quatre grandes solitudes, une des quatre grands aînés. Comme je le disais, en fait, à l'émission l'année passée, j'étais venue parler de Rina Lanier.
C'est vrai.
Il semblerait qu'on pourrait l'écouter en balado maintenant.
Oui, oui, si ça vous intéresse d'aller l'écouter. Balado, exactement, oui.
Donc, oui, Rina Lanier de Saint-Denis-Garneau, puis Alain Grandbois. C'est une aussi, avec Rina Lanier toujours, mais Gabrielle Leroy aussi, qui a été davantage dans le roman. Une des trois femmes de lettres qui vont aussi changer... un peu la façon d'embrasser, en fait, l'écriture. Ici, on a des femmes qui embrassent l'écriture comme une carrière littéraire. Mmh. Elles le font comme un appel, comme une vocation. Mais je le dis quand même avec un bémol, c'est-à-dire que oui, puis c'est drôle parce que dans la biographie, il y a une citation où Anne Hébert dit vraiment à une de ses tantes qui est dans un couvent, justement, « Non, c'est un travail sérieux que je fais pour moi. C'est très exigeant. » Et puis elle le compare... au travail, la vocation religieuse.
Ouais.
Je sais que Gabrielle Roy l'a fait aussi. Elle parlait d'écrire comme d'entrer dans un cloître. Donc, il y a quelque chose qui change ici. Mais il faut dire qu'il y a un pas franchi aussi parce que c'est de la littérature, une littérature autonome qui, désormais, puis là, on parle là, du tournant des années 40, là, les premiers recueils ou les premiers livres que ces femmes-là vont publier. Donc, une littérature autonome donc qui répond à des règles qui lui sont internes et non pas des règles qui sont religieuses ou sociales ou politiques. Donc ça, c'est quand même, c'est très important dans notre histoire littéraire, ça amorce un changement. Donc, maintenant, je me lance sur la biographie.
Je te permets de reprendre ton air, Émilie.
Oui, c'est ça. Ah, non, mais c'est qu'il y a vraiment trop de choses à dire. 500 pages et plus.
C'est ça,
plus
long,
ce que vous voulez.
Mais c'est ça, quelques repères biographiques donc, sur la vie d'Anne Hébert, Émilie, s'il
oui,
te plaît.
Donc, Anne Hébert est née en 1916. Elle est morte en 2000. Elle a vécu sa jeunesse à Québec et à Sainte-Catherine-de-Fossambeau, maintenant Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Mm-hmm. Un peu à l'ouest de la ville, oui.
Oui, c'est là, en fait, qu'il y a le manoir, le fameux manoir Juchereau-Duchesne, qui est un manoir familial. Et c'est quand même important parce que, comme on l'apprend dans la biographie, Anne Hébert est quand même élevée dans le culte des ancêtres glorieux et nobles. Et d'ailleurs, Marie-Andrée Lamontagne utilise le premier chapitre, ou en tout cas un des premiers chapitres, pour retracer ces ancêtres-là, voir qu'est-ce qui fait partie du mythe et de la réalité. Et, c'est le chapitre, je dirais, qui est peut-être le moins enlevant de la biographie, même si on comprend quand même que c'est nécessaire.
Une espèce de travail généalogique.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais quand on est plus loin, on est moins dans le vif du sujet, donc
ouais.
C'est moins enlevant. Mais donc, on entre vite avec Anne Hébert par la suite. C'est un travail de 15 ans quand même que Marie-Andrée Lamontagne a fait ici pour recueillir tous les témoignages. Et on sait, bon, plus ça va, plus les personnes qui sont entrées en contact avec Anne Hébert... se font rares. Et enfin, j'imagine le travail, trouver des archives et tout ça. Et donc, c'est un tableau très complet qu'on a. Et moi, c'est ça que je trouve que ça apporte. Donc, je connaissais l'œuvre, je connaissais des données, oui, biographiques, mais de nous faire un portrait ici complet avec tous ces détails-là accumulés, d'avoir un visage aussi à mettre sur ce grand nom-là, c'est ça qu'on apprend. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? La vie de pauvreté d'Anne Hébert, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Donc, Anne Hébert avait une santé fragile. enfant, elle était souvent retirée de l'école parce que, bon, trop malade. Mais enfin, oui, trop malade, mais on comprend qu'elle avait une famille qui la couvait beaucoup. Donc, elle est comme un peu grandie sous une cloche de verre.
Et c'est ça fait penser à de Saint-Denis-Garneau, un peu, non?
Oui, un peu différemment. Oui, c'est vrai, mais lui est quand même mort aussi. Beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Alors qu'Anne Hébert, à l'âge de 38 ans, on a l'impression que là, tout à coup, elle devient adulte et apprend sa vie. C'est au moment où elle s'en va à Paris, elle reçoit une bourse, puis elle s'en va à Paris. Et en fait, c'était supposé être pour un an, mais elle va prolonger, puis elle ne reviendra jamais vraiment ici, sinon pour des petits voyages, des séjours, mais c'est vraiment à la fin de sa vie, en fait, par la force des choses, là, parce qu'elle se faisait vieille, qu'elle vient vivre à nouveau à Montréal. Mais sinon, c'est à partir de 38 ans, on a l'impression, là, parce qu'elle était au début de la vingtaine, pendant 5 ans, là, alitée et puis confinée à la maison. Ah ouais. Et ça, c'est bien décrit dans le livre. On savait qu'elle avait été malade, mais tout ça... là, prend un sens nouveau parce qu'on comprend aussi que ça va influencer son œuvre. C'est pour ça aussi que, en fait, cette santé fragile-là, cet enfermement-là qu'elle va vivre, va nourrir toute l'œuvre à venir, mais c'est pour ça aussi que ça va être beaucoup comparé au Québec de la Grande Noirceur. Mmh. Donc, l'œuvre d'Anne Hébert va beaucoup être mise en parallèle avec. Je dis le Québec, c'est le Canada français, là, mais à l'époque de la Grande Noirceur. Donc ça, c'est assez intéressant.
Alors, cette période-là de maladie ou de fragilité, de précarité, en tout cas, n'est pas anodin.
C'est ce que
Marie-Andrée Lamontagne dévoile dans cette biographie-là.
Oui, et puis, donc, j'en arrive à la vie de pauvreté. Donc, au moment où elle réussit à échapper au cocon familial si douillet, qui en fait, elle ne se rend pas nécessairement compte, mais il y a aussi un traumatisme avec ces 5 années là, d'alitement-là, là, elle voit bien que c'est sa jeunesse qui s'est envolée là. Et lorsqu'elle arrive à 38 ans, qui est quand même, assez avancée pour quitter l'adolescence, si on veut, et là, elle arrive à Paris et c'est la liberté. Pour elle, peu importe qu'elle ait peu de sous, parce que là, vivre de sa plume, c'est quelque chose. Elle a des mécènes, un peu d'argent qui arrive par-ci, par-là. Mais c'est plus tard que les prix vont arriver. C'est plus tard que vraiment, bon, on va avoir des bourses, quelques subventions, mais c'est quand même insécurisant. Et bien qu'elle vit cette insécurité-là, on la voit au travers de la correspondance qu'on peut voir, là, qui est présente quand même tout au long de la biographie. Pour elle, c'est peu cher payer cette grande liberté-là d'écrire et cette grande autonomie-là qu'elle a enfin gagnée. Alors ça, c'est intéressant, mais vraiment, on parle d'une pauvreté, là, des logements misérables, pas beaucoup de nourriture, et c'est vraiment, c'est vraiment ça, vivre pour écrire, peu importe ce que ça coûte. On en apprend sur sa vie amoureuse aussi, qui était un peu inédite, sa relation avec Roger Mam, qui était un homme d'édition, un éditeur, un Français. Mais aussi, je ne vendrai pas les punches, mais Marie-Andrée Lamontagne aussi aborde la fameuse question, plutôt l'espèce de rumeur selon laquelle Anne Hébert était lesbienne ou homosexuelle. Alors, elle lève le voile là-dessus, elle le fait assez bien. Vous irez le lire, j'en dis pas plus. Mais,
T'es bonne,
on en parlera
après.
Je voulais savoir. Mais oui, c'est ça. Bon, non, mais, j'ai d'autres choses à dire. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en même temps,
je tiens à dire que la chronique d'Émilie n'est pas commanditée par la maison d'édition.
Non, c'est ça.
Non, mais c'est important de le dire.
Oui, non, c'est ça. Non, mais la vie amoureuse, en même temps, donc, Anne Hébert nous est décrite comme une femme qui tenait beaucoup à sa vie privée, ça ressort dans tout le livre. Très, très, aussi réservée, elle allait dans des repas, puis on lui posait des questions, des fois, elle répondait juste pas, elle était très... des fois, ça créait des malaises, mais je pense pas qu'elle sentait le besoin d'aller vers les autres. On le dit, il fallait aller vers elle, et puis encore. Bon. Donc là, dans tout... Et elle développe aussi elle essaie de se protéger. Et on a même... sa grande amie, Gertrude Lemoine, qui est décédée il y a quelques années, et d'ailleurs, il faudra que je revienne à parler d'elle, mais qui est une femme de lettres aussi, nous dit, et je cite, là, pour citer la biographie quand même, c'est de ce qu'on parle, elle dit, là, pour montrer comment Anne Hébert protégeait sa vie privée. Alors, Gertrude Lemoine dit, « Nous étions convenus, Anne et moi, qu'on ne garderait jamais nos lettres. Chacune détruisait donc la lettre qu'elle avait reçue de l'autre, ceci afin de préserver notre amitié et que jamais, petit point de suspension, vous voyez ce que je veux dire. » Fermer les guillemets. Mmh. Donc, c'est pour dire comment elle protégeait sa vie et ça ressort. Donc. Et là, on a l'impression un peu d'être un peu voyeur à cause de ça. Il y a des détails intimes. Oui, il y a des détails intimes aussi de sa vie. Bon, presque à un moment donné, sa vie avec Roger Mam, bon, sa vie sexuelle, bon, c'est un peu malaise. On sent un peu mal à l'aise. Puis en même temps, bon, comme ex-chercheur universitaire, je vois tout à fait la pertinence de ça et j'aurais tellement aimé avoir ça il y a 10-15 ans alors que je travaillais sur les trajectoires des femmes poètes au Québec au 20e siècle. Donc,
ben ouais.
C'est une richesse. Donc, ça, c'est très. C'est bon, c'est un
c'est précieux,
travail.
Ben
oui, oui, précieux et tellement intéressant. Donc,
et pertinent parce que ça éclaire l'œuvre, c'est ça.
Ah oui,
ce
oui, oui, c'est ça. Et Marie-André Montaigne le fait très bien. Et là, je terminerai en fait longuement, c'est que pour moi, donc, alors je connaissais l'œuvre, je connaissais des faits biographiques, mais là, on a un visage qui ressort de ça. Et ça revient plusieurs fois dans la biographie. Des gens qui disent qu'Anne Hébert, en la rencontrant, ils avaient découvert que c'est une femme lumineuse.
Ouais.
Pour moi, ça entre en contradiction avec l'image que j'ai, puisque c'est une œuvre, pour moi, de ténèbres. Ah, et je m'explique, c'est une œuvre très violente. Et quand je parle de violence, c'est des meurtres, c'est des viols, de l'inceste, de la sorcellerie.
C'est effrayant, dit Anne Hébert. Excusez-moi, je vais le dire, là, mais moi, là, si tu veux déprimer dans la vie, tu lis ça.
C'est beau,
c'est bien écrit, mais Dieu, que c'est effrayant.
Oui, pour moi, il faut être en santé mentale et spirituelle pour attaquer ça. Et je vous le dis, je suis pas en état souvent de lire ça parce que c'est très.
mais
c'est tellement bien écrit.
Excuse-moi.
Mais sur les enfants du sabbat, alors je cite un de ses éditeurs, page 401, qui dit: c'est irrespirable à souhait et pourtant envoûtant comme un film d'horreur. Tout se déroule d'une manière ténébreuse, mais souvent sulfureuse. Et plus loin, il y aura des lecteurs pour une telle œuvre empreinte du mal obscur, car il y a aussi dans ce texte une sorte de triomphe du péché à la gloire de Satan. Ni plus ni moins.
Mais
voilà.
C'est vraiment ça.
C'est lourd. Alors, comment une femme lumineuse peut produire une œuvre comme ça?
Et pourtant, ça ressort vraiment à la luminosité. Eh bien, je conclurai sur cette citation d'une autre de ses éditrices à la fin. C'est-à-dire que là, Marie-André Lamontagne répond pas directement, mais elle soulève quand même directement la question à un certain moment, à la fin d'un chapitre ou d'une section, sans y revenir. Mais à la fin, donc chapitre 12, on a l'éditrice qui nous dit ceci, pour moi, ça explique un peu. On sentait chez elle une grande violence, une blessure profonde et secrète l'habitant, et la canalisation de cette violence et de ce foisonnement dans ses romans, qui sont autant de cailloux semés sur sa route. Voilà. C'est là que le mot de la fin.
Si on veut.
Non, mais
ça me laisse sur mon
appétit. Moi aussi, ça me laisse sur mon appétit. Mais en lisant cette, qui n'était pas donnée comme une réponse, mais moi, que j'ai vu comme un peu une réponse, c'est comme si, quand même, ça avait été très thérapeutique pour elle, l'écriture. Mm. Tu sais, ni plus ni moins. Il y avait comme quelque chose qui était
analysé. Ce qui est le cas pour plusieurs auteurs, quand même.
Bien sûr.
Émilie Théoret, tu recommandes cette biographie signée par Marie-André Lamontagne?
C'est très bien écrit, c'est passionnant. À la fin, il y a des petits extras, là, donc la généalogie qui est donnée. Un très beau travail, colossal. On salue ça, puis on est content d'avoir toute cette belle information-là désormais sur Anne Hébert.
C'est fini, là, on ne peut pas parler plus que ça d'Anne Hébert.
Tu as 30 secondes, Brigitte Bédard.
Allez.
Non, mais moi, que je vais le lire. Regarde, je ne l'ai pas lu. Je vais le lire, la biographie. Mais moi, c'était un côté traumatique de mes études littéraires. Mmh. Je te le dis, lire Anne Hébert, c'était une torture. À cette époque-là, avant que j'aie la foi, c'était jubilatoire. Mais maintenant que j'ai la foi, je ne serais même plus capable de lire Anne Hébert, tellement que c'est, je vais dire le mot, satanique. C'est épeurant. Pas toutes, mais ce que je retiens d'elle, c'est que j'ai peur d'ouvrir un livre. Je ne l'ouvrirai plus. Ce qui n'est pas le cas de Rina Lanier, par exemple, de Garneau. Mais elle, il y a quelque chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a vécu?
Mais comme l'éditrice disait, c'est ça, il y a une blessure
profonde. Pour compulser là-dedans, il y a comme une compulsion, une obsession du satanique, puis du ténébreux, c'est malsain.
Mais en fait, c'est que son talent est tel...
C'est génial! Mais c'est génial!
Oui, son talent, c'est ça. C'est que son talent est tel que après deux ou trois lignes, une page au maximum, on est happé par son univers.
Exactement.
Et donc, comme je le disais, si on n'est pas fort mentalement en ce moment, ça peut être très difficile parce que on est happé, mais c'est lourd, c'est noir, donc c'est ça. Mais en même temps, c'est ça son talent.
Mais c'est beau. Mais
dans une langue très belle.
C'est paradoxal, tiens donc.
Mais il faut le savoir. Oui, voilà, une femme paradoxale.
On les aime-tu, celle-là? Émilie Théoret, tu nous présentais la toute récente biographie sur Anne Hébert, s'intitulée comment?
Anne Hébert, Vivre pour écrire, chez Boréal, et puis qui est sortie déjà en librairie depuis le 29 octobre dernier.
Mm. Un travail de moine signé par...
De monial, devrais-je dire,
par Marie-André Lamontagne. Bravo. Merci, Émilie Théoret, de nous avoir présenté cette
œuvre. Bienvenue, tout le plaisir est pour moi.
C'était « On n'est pas du monde » en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.